Sportez-vous bien. L'agenda sportif en partenariat avec Intersport. Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver pour la deuxième saison de l'émission. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, reprenons les bonnes habitudes avec les coups de cœur et les coups de gueule. Lucas Serdic à ma droite nous donnera l'agenda de la semaine et les débats avec le mondial de basket et le début de saison de Ligue 1. Avec nous ce soir, on prend les mêmes. Et on recommence avec Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Heureux de vous retrouver. Ouais. C'était long, messieurs.
C'était long. Non, ah, entendre oui. Ce petit salut de Maxime Brossard à chaque fois ouais. Que tout le monde dit bonjour, moi, ça me.
C'est
ça
la signature.
Là, il se différencie des autres quand même. Vous avez vu.
Il a dû le piquer quelque part.
C'est ça. Non, pas vraiment. C'est venu comme ça, l'inspiration.
Quelle est votre idole, Maxime?
J'en ai beaucoup.
J'en suis rédacteur. Ah ouais, dommage. Bon, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? On s'est occupé de bébé, puisqu'on va rappeler à nos auditeurs, et voilà, voilà, vous avez été papa le 17 juin dernier pour la première fois. Comment il va, le quand petit Léon?
Le fait que vous vous souveniez de cette date, je suis très ému, déjà.
C'est vrai?
Oui, oui.
Non, mais je prends soin de mes chroniqueurs.
Non, c'est incroyable, je ne sais pas ce que vous allez me demander par la suite, mais ça doit être très gros.
Le chèque un peu moins... Un peu moins.
Voilà, c'est ça, c'est pas une histoire de chèque, tout ça. C'est justement le fait qu'il n'y en ait pas.
Ah oui, sûrement.
Non, il se porte très bien, merci. Merci beaucoup.
C'est vrai.
Il se porte bien. Voilà.
Bon, ça lui fait deux mois là, un peu moins.
Un peu plus de deux mois.
Pardon. Oui, je suis pas bon en maths.
Non, le 17 juin, c'est pas facile pour vous. Ok, d'accord.
Non, mais vous avez fait un peu. Vous avez fait un peu de sport, Maxime, pendant les...
Ouais, comme d'hab, toujours du sport. J'ai regardé Mimi Mathieu aussi, j'ai pensé à vous. J'ai vu que c'était la saga de l'été, c'était tout l'été sur TF1.
Mais oui, l'après-midi, ouais. J'étais heureux, moi.
Ouais, j'espère que les gens sont allés à la plage, du coup. Hein,
parce moi, j'allais à la plage après.
J'allais dire qu'avec votre tête, vous n'êtes pas beaucoup allé à la plage.
Non, non, mais moi c'est...
Non, mais
c'est
il reste à l'ombre.
Je vais dans l'eau et je retourne jouer à la pétanque.
Et la buvette aussi, un peu.
C'est pour ça. Et vous, Mehdi Guillonneau?
Dur labeur, je travaillais tout l'été.
C'est vrai. Ça s'est bien passé.
Très bien passé, à base de sport, de tournoi, très bien passé.
Vous voyez l'exemple, il prend pas de vacances, lui.
Bah oui.
Et ça, c'est fort.
Ça, c'est la France qui réussit.
Ça, c'est fort.
La France qu'on aime.
On a parlé de.
Sans vacances, on aurait continué tout l'été, ça aurait été bien aussi.
Ah oh, oui, ouais, surtout qu'il y avait des choses à dire. Pendant l'été, il y avait des choses à dire. On a parlé de Mimi Mathy, n'oublions pas ce soir à 21h.
Oui, bien sûr, hein, Camping
chez
Paradis.
Chez nos c'est confrères vrai. De TF1.
On est à Sportez-vous bien, il y a la liste des 31 à 20h, mais non, on parle de
Mimi Mathy. C'est un inédit en plus.
Ah oui, c'est un inédit ce soir.
Incroyable.
Maxime, franchement, je suis très inquiet. Ouais.
Non, mais en fait,
ça y est, il l'a converti.
Non, non, c'est fini. Tous les lundis soirs, je regarde s'il y a écrit inédit en bas des bandes d'annonces. Et après, c'est le premier truc que je regarde et je me dis, mais Jean, il va regarder, c'est obligé. Je me dis, dans quelle misère il est le soir pour regarder ça quand même, le pauvre.
Trop longtemps qu'on fait des émissions ensemble.
Vous avez vu comment je l'ai formaté sur Mimi Mathy et Camping Paradis.
Remarque, moi aussi, hein, je vois une info sur Mimi Mathy, je la sors direct.
Ah, voilà. faut qu'on résiste encore, Lucas, quand même.
Par contre, faut pas.
Ça va être dur pour vous. Bon, je vois que vous êtes en forme, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Et chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception, un fait de match, un fait de jeu, un joueur. On va partir avec vous, Lucas Serdic, parce que exceptionnellement, vous avez choisi un coup de cœur et un coup de gueule, parce que monsieur ne savait pas ce...
Moi, je propose, après on dispose, j'écoute le chef de cette émission.
On va commencer avec un coup de cœur. Parce que le coup de gueule, on va le garder un petit peu pour tout à l'heure.
Okay. C'est d'abord des sourires.
Voilà, c'est le début de l'année.
Très bien.
Voilà, on va commencer, on va parler un peu de football. On va faire le débat de Ligue 1 en deuxième partie d'émission. Mais là, on va prendre l'étage en dessous. On va parler de nos voisins de Rodez qui font un début de saison magnifique, exceptionnel et au-dessus des attentes, bien évidemment, pour un promu.
Voilà, j'allais pas dire non plus magnifique, mais en tout cas très très convenable et franchement réussi pour un promu. On sait que les débuts de saison, on l'avait dit hier, sur ce plateau en fin de saison dernière, les débuts de saison sont très importants pour les promus et Rodez ne manque pas le sien, bien au contraire, avec une jolie 9e place, avec autant de points, 9 points de victoire, 3 nuls, 1 défaite et à domicile, un comportement très honorable. Le stadium est gâté en ce mois d'août parce qu'en plus
il y a même
le TFC gagne aussi. Donc là Rodez à domicile, c'est 2 victoires et 1 nul, et un beau nul en plus, 3 partout, un match assez magnifique arraché dans les dernières secondes, donc de belles émotions. Voilà, tout qui va bien pour Rodez, et puis on reste pour moi dans les pronostics que je m'étais fait, c'est-à-dire un maintien pas facile, mais voilà, qui sera là,
pas inquiétant, pas la dernière journée, voilà, pas l'arrache, on peut le dire,
et pourquoi pas un milieu de tableau tranquillement acquis, ce serait bien, et puis ça permettrait au club de faire une transition douce et pourquoi pas de rêver plus haut plus tard, quoi.
Aucune défaite à domicile, mais ils jouent Sochaux le 27 septembre.
Le 27 septembre, par contre, Jean, j'ai une très mauvaise nouvelle.
Non,
la programmation est sortie, et
c'est le 27, c'est le vendredi soir,
ce sera le vendredi soir et non pas le lundi soir comme dans vos rêves les
plus fous.
On ne pourra pas faire une émission délocalisée au stadium avec Sochaux. Non, c'est terminé, voilà, il faut tirer un trait sur ça.
Écoutez, je vais envoyer une lettre à la Ligue, je trouve ça insupportable.
Ça mérite la fiche du lundi soir, mais non, genre non.
Mehdi, vous allez souvent au stadium pour voir le TFC, vous êtes allé voir le Rodez en Ligue 2, comme Chambly qui est promu, il y a Le Mans qui a gagné pour la première fois face à Sochaux
il y a des clubs qui aident,
ils sont généreux, Sochaux.
Voilà, vendredi dernier, mais c'est vrai que Chambly et Rodez, deux équipes qui sont pas vraiment formaté pour le monde professionnel, si on regarde les objectifs de l'année dernière.
Chambly n'a pas de stade non plus, par exemple.
Exactement. Voilà, il y a quand même de belles surprises. C'est au-delà des attentes, comme a dit Lucas.
Ouais, plus qu'une surprise, je pense qu'elles sont sur la lancée de l'année dernière, et c'est souvent les débuts de saison où elles arrivent à engranger des points, elles arrivent prêtes physiquement, ces équipes-là. Et le plus dur va peut-être venir à partir de novembre, décembre, janvier. C'est ces mois-là qui vont être cruciaux pour ces équipes-là.
Ça se vérifie en Ligue 1 aussi.
Exactement, c'est la même chose en Ligue 1, mais surtout, moi, c'est le comportement des joueurs, la façon dont les joueurs se battent, parce que le niveau de Ligue 2, c'est un niveau moyen, mais si tu arrives à y mettre du cœur, ça peut tenir toute l'année, tu vas ramasser des points à la maison, et pour le maintien, ça le fera. Il faut qu'ils gardent cet état d'esprit, parce que vraiment, notamment sur le match contre Orléans, où ils finissent à 10 contre 11, ils arrachent la victoire à la 92e, avec notamment Hugo Bonnet, l'attaquant, qui est un des symboles de cette équipe-là, et je pense qu'ils peuvent y arriver, mais il y aura sûrement que comme ça.
La question un peu tordue, vous me voyez venir sur Lucas, Valenciennes avait fait l'ascenseur des trois divisions dans les années 2000. Metz l'a fait, Bastia l'a fait, Evian-Thonon-Gaillard l'a fait, le Gazélec Ajaccio l'a fait,
Strasbourg
l'a fait. Rodez ?
Ah oui, non, mais moi j'y pensais clairement en fin de saison dernière.
C'est-à-dire faire National 1, Ligue 2 et Ligue 2, Ligue 1 en l'espace de 2 ans.
Alors voilà,
ça va être compliqué.
Franchement, ce sera certainement pas le cas, mais pour moi c'était carrément possible.
Ils ont fait 2 ans en National par contre.
Oui. Mais voilà, ils étaient déjà pas mal proches de la montée l'année dernière.
Les 4e.
Et là, ils étaient tellement solides en fait l'année dernière. C'est la solidité, moi, que je tenais à souligner l'année dernière, et qui fait que quand tu arrives quand même avec cette base-là, c'est beaucoup plus facile dans un championnat aussi. Si après dense que
l'équipe n'a pas beaucoup bougé.
Voilà, et l'équipe a quasiment pas bougé. Donc voilà. Mais bon, on sent quand même que c'est compliqué. Ils prennent des buts.
On va pas le savoir.
Voilà, ils vont pas monter. Mais
là où c'est peut-être plus dur, c'est par rapport aussi aux modalités d'accession à la Ligue 1 maintenant, avec tous ces barrages. Oui. Quand on voit les campagnes qu'a fait Lens, notamment par exemple, qui a perdu contre Dijon et qui aurait peut-être eu sa place. Hein, quand on voit la façon dont joue Dijon actuellement en Ligue 1,
on va en parler tout à l'heure, mais c'est cataclysmique.
C'est compliqué maintenant pour monter.
C'est vrai qu'il faut passer par beaucoup de matchs de fin de saison, et on est sur les rotules. La Ligue 2, c'est long, les coupes arrivent plus tôt aussi, donc c'est compliqué.
Je me tourne vers Mehdi Guillonneau, c'est un coup de cœur. Attention, il m'a mis au défi. Il m'a mis au défi de prononcer son coup de cœur de la journée.
Ah, j'ai hâte.
On va parler de Vuelta, on va parler de vélo, et on va parler de Tadej Pogačar. Est-ce que c'est bien prononcé?
C'est parfait, vous êtes aussi bon en slovène qu'en anglais.
C'est magnifique. Je suis vraiment très déçu, parce que moi je m'attendais à un nom anglais imprononçable.
Il a fait LV1 slovène.
Oui, c'est ça.
Après, il a dû l'écrire à sa manière. Après.
Ah oui, je l'ai écrit en phonétique.
Alors, dans ce cas,
on va parler vélo, Mehdi.
Oui, on va parler du jeune slovène Tadej Pogačar, qui a 20 ans, qui vient de remporter la 9e étape du Giro. Il court pour l'équipe UAE et Team Emirates. Et il est 5e au classement général. Il a battu notamment sur l'étape à Cortal d'Encam, c'était un Andorre. Il a battu les Quintana, Miguel Angel Lopez, Roglic, tous les gros du peloton. Et
merci Movistar encore sur ce coup-là.
Ah, oui, non, Movistar catastrophique sur cette étape-là, pardon, où ils font décrocher. En fait, Soler allait gagner l'étape.
Qui est un Movistar.
Se laisse rattraper par Pogačar et Quintana.
Quintana qui roule, Pogačar qui l'emmène quand même.
Voilà, bon, il récupère quand même le maillot rouge sur le coup, mais Pogačar, il va les planter alors qu'il avait l'étape gagnée. Bon, c'est du grand n'importe quoi.
C'est Movistar, quoi.
Ouais. Pour revenir à ce jeune-là, il est 5e du classement général à seulement 20
20 ans. C'est ça qui est impressionnant. Il a gagné le Tour de l'Avenir, donc le Tour des moins de 23 ans. L'année dernière, déjà, il avait que 19 ans, alors que c'est les moins de 23 ans.
Et la Vuelta, pardon, c'est pour ceux qui...
Voilà,
qui
c'est le troisième plus grand tour du monde.
C'est l'un des gros tours, l'un des principales tours du cyclisme international.
Voilà, il faut bien placer l'âge où normalement on arrive au top de sa carrière dans le cyclisme. C'est plutôt entre 30 et 35 ans.
C'est là où je l'ai
vraiment. Alors à 20 ans, arriver à faire ce qu'il fait, oui.
Il a gagné le Tour de Californie aussi, déjà une course d'une semaine, ce qui est très rare à son âge. Et alors avec Remco Evenepoel, qui a un an de moins, lui, qui a gagné la Classica San Sébastien, il représente une nouvelle génération qui arrive, qui bouscule tout le monde et surtout qui arrive beaucoup plus tôt. Et c'est sûrement dû, moi c'est ce que je me dis, j'ai pas d'infos plus que ça là-dessus, mais en fait les préparations en ville commencent de plus en plus tôt chez les jeunes et comme un peu dans tous les sports, on voit du rajeunissement.
Il y a de plus en plus de précocité.
Exactement, on n'a pas besoin, avant on disait il faut accumuler des kilomètres pour briller, notamment sur les grands tours parce que ça dure 3 semaines. Et là en fait, Pogacar c'est son premier grand tour, il arrive à 20 ans, c'était impossible, il y a quelques années c'était impossible de voir ça. Et là on se dit, il fera peut-être dans les 5, voilà, il sera peut-être le premier des
autres.
À
20 ans, c'est déjà énorme.
Et c'est déjà énorme. Et surtout qu'on a vu aussi Egan Bernal gagner le Tour de France à 22 ans.
Et on parle pas des Van Der Poel et on parle pas de tout cela encore. Il y a vraiment une génération incroyable là.
On va pas s'ennuyer avec le cyclisme dans les années à venir. Je regarde en face, je me tourne vers Maxime Brossard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Maxime Brossard, c'est l'égérie entre guillemets des sports de combat.
Non, le défenseur.
Le défenseur des sports de combat. Et on va continuer avec ça, on va parler de UFC.
Oui.
Et c'est un coup de cœur, bien évidemment.
Oui, c'est un coup de cœur, ouais. Je vais vous parler donc de l'UFC 242, donc, qui sera l'événement donc, de MMA ou d'arts martiaux mixtes en français, plus particulièrement. Donc, il aura lieu donc, ce samedi à 20h, ce sera à Abu Dhabi. Voilà, donc pour une fois, on va dire l'UFC a décidé, enfin pour une fois, va délocaliser le combat, et c'est une affiche qui va avoir lieu donc entre l'invincible Khabib Nurmagomedov, donc,
ah, je l'aurais pas prononcé,
et Dustin Poirier, donc l'Américain. Qui va être le challenger, qui va tenter donc de défier ce Russe qui est invaincu maintenant depuis 27 combats, que tout le monde essaie de faire tomber, et qui, pour certains, vous l'avez peut-être en mémoire, s'était battu contre Conor McGregor il y a un an.
Ouais, il avait largement
dominé. Et en plus, après, il y avait eu, on va dire... des heures autour de l'octogone avec des gens de sa famille qui étaient rentrés dans la cage.
De la castagne.
La bagarre.
Ouais. Ça vous plaît, ça, Maxime.
Ouais, moi, c'est la bagarre qui m'attire. Non, pour revenir plus sérieusement à l'UFC, donc voilà, ça va être un événement très attendu par les amateurs de MMA, puisque on veut tous savoir un peu quelle va être la solution pour réussir à faire tomber ce Khabib, qui est vraiment incroyable, qui est complet, qui avant était vraiment qu'un spécialiste de lutte en fait, qui pratique un art martial qui s'appelle le sambo. C'est un art martial qui est axé sur énormément donc sur la lutte, qui ressemble un peu au jujitsu mais version russe en fait. Et qui a en fait, avec quelques carences au niveau, on va dire, de la boxe, du striking, c'est-à-dire en étant la phase de combat debout, donc, mais qui depuis quelques temps maintenant semble être complet, il semble être invincible, il semble être inarrêtable. Et là il y a encore un combattant qui va se mettre sur sa route, qui est Dustin Poirier, et qui, j'espère, va réussir un peu à le faire flancher et relancer aussi un peu.
Pas l'air d'y croire vraiment.
Moi, pas trop. Je pense qu'il va, va gagner. Non, mais Dustin Poirier, on peut le respecter quand même. C'est un cousin de lui. Il vient de Louisiane. Ça doit être, il doit avoir des racines françaises, je pense. Donc, c'est un cousin à nous. Donc, on va le supporter d'autant plus.
Un Orléanais.
Mais il a un nom qui prête à rire, qui fait un peu maraîcher. Mais après ça, quand même.
Il doit pas faire rigoler.
C'est quand même, un combattant très fort.
J'aimerais pas être dedans.
Qui a vaincu une référence qui s'appelle Max Holloway lors de son dernier combat, qui a été classé, je crois, un des combats les plus beaux de l'histoire de l'UFC. Voilà.
Affaire à suivre.
Oui, ce sera sur RMC Sport à 4 à 22h. Ce sera samedi.
J'imagine que vous allez sûrement en parler lundi prochain. On a commencé avec 3 coups de cœur. On va malheureusement terminer avec un coup de gueule. Allez.
Oui, mais je suis sûr que tout le monde le partage.
Oui, bien évidemment. Je vous donne une minute. On va parler de rugby. On va parler de Coupe du Monde et de Top 14 en même temps.
Oui, ça va aller vite. Hein. On le dit. On l'a déjà dit 1000 fois. On l'a déjà dit aussi pour le tournoi de destination. C'est cette histoire éternelle de doublons, mais qui, au moment de la Coupe du Monde, prend des proportions quand même énormes, parce que des clubs comme Toulouse cette année, mais il n'y a pas que.
Il y a Clermont, il y a Toulouse, en Angleterre et en Irlande, c'est la même chose.
Joueurs, ouais. Et voilà, et ça va durer jusqu'à le mois de novembre, quoi. C'est-à-dire qu'en plus avec les tests match et le Six Nations, on a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui vont jouer davantage en équipe de France que dans leur propre club durant toute cette saison de Top 14 et de Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment très dommageable. L'autre jour, j'ai sacrifié mon dimanche après-midi pour regarder une alléchante affiche entre Clermont et La Rochelle, et je me suis royalement fait.
Voilà.
Ouais.
Le Lyon Toulouse était pas mal aussi.
Vraiment. Dans le genre, on a autant d'absents qu'une magnifique équipe de rugby, quoi. C'est-à-dire que si on prend tous les absents, on fait un 15 qui est champion de France. Mais bon, c'est vraiment trop dommage parce que le top 14 mérite mieux que ça. Le sport qu'est le rugby mérite mieux que ça en France. C'est vraiment dommage. Il faut trouver une solution. À un moment donné, c'est plus possible.
Maxime, pour terminer, il y a la Coupe du Monde de foot. L'été, il y a même le basket l'été, automne, vous me voyez venir. Pourquoi on met pas la Coupe du Monde en été?
On va dire ça s'est fait comme ça, en fait, finalement, c'est historique, ça a toujours été l'automne, et c'est vrai qu'au niveau des clubs, eh bien, ça a forcément un impact. Et le problème n'est pas que par rapport à la Coupe du Monde, puisque vous avez aussi des matchs pendant les Six Nations où les clubs jouent quand même, alors que l'équipe nationale est en train de jouer pendant les tests de novembre.
Mais c'est moindre.
En général, c'est deux voire trois
matchs, c'est la moitié des matchs.
C'est pas normal quand même. Si vous prenez les autres disciplines, on va dire, comme le foot, où ben, généralement, quand il y a l'équipe de France, ben, les clubs s'arrêtent.
Le handball,
sur le foot, c'est inimaginable aujourd'hui que des clubs comme le Real ou le Barça. La Coupe d'Europe va se jouer ces clubs-là sans leurs stars, enfin ce serait impossible.
De toute façon, des clubs comme le PSG, le Real, Manchester City, ils mettent la réserve, quoi. Leur effectif est composé à 95% d'internationaux.
Ce serait vraiment la fin du football international.
Il faut rappeler que le rugby est professionnel depuis 95, en fait. Au niveau professionnel, c'est un sport qui existe que depuis très peu de temps. Donc finalement, on a l'impression qu'il va peut-être pas assez vite, mais il manque encore, on va dire, la maturité que peut avoir le football, qui est un sport professionnel depuis très longtemps, qui a pu constater, on va dire, au niveau de l'organisation, comment gérer les compétitions, comment gérer aussi les effectifs. Le rugby sur ça est encore, on va dire, en train de balbutier, donc peut-être que ça viendra avec le temps, à force, mais bon, il faudra trouver une solution, c'est certain, parce que ne serait-ce que pour la visibilité du sport, c'est catastrophique.
C'est bien meilleur le top 14 qui a débuté déjà le week-end dernier. La Coupe du Monde, on va en parler dans l'agenda tout à l'heure avec Lucas Serdi, qui va démarrer le 20 septembre, la France le 21 face à l'Argentine. Merci messieurs, nous on se retrouve dans un peu moins de 4 minutes avec donc l'agenda de la semaine. À tout de suite.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
que tes beaux yeux. Je veux tes yeux.
Portez-vous bien. L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. Et pour démarrer la nouvelle saison, une actu, bien évidemment, extrêmement chargée. Et comme d'habitude, on va commencer avec le rugby à 15, sûrement le top 14. Hein.
Oui, le top 14 et surtout le retour du Stade Toulousain Ernest Vallon, parce que voilà, ça faisait longtemps et les Toulousains n'avaient pas eu l'occasion de fêter leurs joueurs hormis Place du Capitole. Mais voilà, le Stade Toulousain, après deux défaites à l'extérieur pour commencer ce top 14, c'était prévisible malheureusement à Bordeaux et à Lyon. Ils vont accueillir le Racing 92, ce sera dimanche à 21h, c'est un peu l'affiche de cette troisième journée de top 14 en prime time. Donc le Stade Toulousain qui est 12e avec deux défaites et le Racing 92 qui est 7e. La veille, on aura eu aussi quelques belles affiches avec Castres qui reçoit l'UBB qui est en forme, hein, deux matchs de victoire. Ce sera samedi
match
à 15h30.
Match de l'entraîneur de Bordeaux, là.
Et oui, voilà, en plus c'est Rios qui revient à Castres, tour. Donc c'est une affiche quand même très intéressante à suivre.
Ça
Castres,
va cogner, comme on dit dans le
c'est
jeu.
Ça
va pas sur les bancs, peut-être. Mais...
non, mais ça va être en tout cas un match vraiment intéressant à suivre. Castres est 8e, ils reviennent d'une défaite. Ce sera donc samedi à 15h30 et dans la soirée, lors du multi, on aura une affiche aussi qui va nous intéresser entre Pau et Agen. Ils sont 9e et 10e. Agen qui a obtenu une victoire très importante la semaine dernière, déjà dans l'optique du maintien, en battant Brive à domicile 16-10. La Pro D2, la troisième journée aussi qui va commencer. Vendredi à 20h, on a quelques affiches qui vont nous intéresser. Carcassonne se déplace à Mont-de-Marsan, qui va pas très bien, hein, de défaite, alors que Carcassonne a perdu contre Grenoble la semaine dernière. Carcassonne est 8e. Montauban va se déplacer à Valromans, qui eux commencent encore plus mal. Hein.
C'était prévisible.
C'était un peu l'équipe, l'épouvantail de la fédérale l'année dernière. Là, ils sont derniers avec deux défaites. Montauban est 6e et a plutôt bien démarré. Ces deux matchs-là, ce sera vendredi à 20h. Et dimanche, on a une très belle affiche. Ouais. Vraiment, entre Perpignan et Colomiers, c'est vraiment presque quelque chose qui sent le top 14 d'il y a longtemps, mais quand même.
Ouais. Hein. Il y a très longtemps.
On parle de 15 ans.
Le top 16.
Ouais, mais j'étais petit.
Mais bon, ça va être une belle affiche, d'autant que Colomiers marche fort. Hein. Ils sont 3e, donc deux victoires en deux matchs, c'est vraiment très bon. Perpignan est 10e, donc dimanche à 14h25. Un mot de Fédéral 1 quand même, parce que c'est important, n'est-ce pas, Maxime?
Oui.
Ça reprend là.
Ça reprend ce week-end, donc la Fédéral 1. Il y aura trois clubs de la Haute-Garonne engagés, donc avec Blagnac, Castanet et Saint-Sulpice. Blagnac et Saint-Sulpice dans la même poule. Blagnac va jouer contre Florence samedi à 16h. Saint-Sulpice va recevoir Lannemezan à 15h30 dimanche. Et si je dis pas de bêtises, Castanet, gros morceau, ils vont recevoir l'équipe de Nice dimanche à 15h ou 15h30.
Ouais, Nice, ils étaient en barrage l'année dernière.
Ils ont fait un gros recrutement en plus, attention à eux. Et très belle poule 3 d'ailleurs de Blagnac, on en reparlera bien sûr.
Ouais. Pour rugby à 15, on termine sur le rugby à 15 avec l'annonce de la liste quand même. À 20h, il faut la suivre sur le JTTF1. La liste des 31 pour la Coupe du Monde de rugby, on a hâte de voir ça.
Sans Brunel.
Sans Brunel, oui, c'est le présentateur, c'est Gilles Boulot.
C'est Gilles Boulot, il y a trois sélectionneurs maintenant.
Il
y a Fabien Galtier, Gilles Boulot et Jacques Brunel.
C'est le rugby. Un mot de rugby à 13.
Oui, un long mot, j'ai envie de dire, parce que c'est la dernière journée de phase régulière du TO13 en Championship. Et c'est très important ce qui va se passer, parce que là, voilà, c'est la 27e journée. Ils sont pour l'instant 2e, mais c'est très serré. Ils pourraient être 3e. Ils se déplacent sur la pelouse de Featherstone, qui est 5e. Ce sera samedi à 16h. Et en fait, derrière, ça conditionne tout le reste des playoffs qui commencent la semaine suivante. Et c'est très compliqué. Enfin, vraiment pour se qualifier. Ouais. Le deuxième va jouer contre le troisième. Le gagnant va jouer à Toronto et le gagnant de ce match-là sera en finale. Le perdant jouera un match de barrage contre le vainqueur du quatrième et le cinquième. Enfin voilà, on est
et après, l'autre
minimum.
En finale contre
il y a minimum trois matchs par exemple. Voilà, ce qu'il faut retenir pour le TO13, il y aura minimum trois matchs à gagner pour monter.
Pour monter. Ouais.
Et battre Toronto peut-être
au moins une fois.
Au moins une fois. Là, mais c'est... ça c'était plus ou moins prévisible.
Ce serait pour monter en Super League du coup.
En Super League. Donc là on est sur du très très lourd pour le TO13. Le dernier match de phase régulière, samedi à 16h.
On change de sport.
Oui.
On va parler du TFC qui se porte bien, on va parler de football.
On va parler du football, effectivement, le TFC qui ne jouera pas ce week-end parce que c'est l'équipe de France, mais le TFC qui est 9e après 4 journées et qui a gagné ce week-end à domicile 2-0 face à Amiens. Une belle victoire pour les hommes d'Alain Casanova qu'on écoute tout de suite.
Ce qui me satisfait beaucoup, c'est qu'on gagne deux fois à domicile parce que ça a été compliqué la saison dernière, qu'on sache s'imposer. Et encore une fois, ce soir, c'est vraiment significatif parce que pour se remettre d'une première mi-temps comme ça, c'est pas toujours évident. Vous avez bien vu que on commençait déjà à subir quelques sifflets parce que certains, comme si là, ont perdu quelques ballons. On a eu quelques fois dans la remontée pas toujours la fluidité qu'il fallait face à leur pression. Et malgré ça, l'équipe elle est revenue avec une grande détermination et en même temps une grande maîtrise pour mettre son jeu en place. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir 7 points après 4 journées, c'était l'objectif que l'équipe s'était fixé et c'est une très bonne chose. Mais ce que je retiens, c'est avant tout une certaine forme de progression, même si je ne peux pas me satisfaire encore de ça et qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais je pense que l'équipe... L'équipe prend forme, on va continuer à bien travailler et à s'améliorer.
Voilà, bon mois d'août pour le TFC qui va avoir une petite pause là avec un match amical et c'est l'équipe de France qui prend le relais samedi soir 20h45 pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020. France-Albanie avec forfait de Pogba dernière minute remplacé par le joueur d'Arsenal Guendouzi et le 10 septembre dans la foulée France-Andorre. Voilà pour l'équipe de France.
Un mot de handball, début de la Lidl Star League mercredi prochain.
Exactement, c'est la première journée, mercredi prochain à 20h45, c'est un peu l'affiche de la soirée. Le Phoenix qui accueille Saint-Raphaël, ouais. Ce sera à suivre sur BeIN 1 et surtout pour les Toulousains au Palais des Sports.
Et un mot, on va parler d'autres sports, on va pêle-mêle, comme dit Julien Cazard.
Le tout venant. Le basket, donc le mondial qui continue. Jordanie-France, demain à 14h30 sur Canal+ Sport. Normalement, ça devrait être une formalité. Pareil, jeudi à 14h30 face à la République dominicaine. Et ensuite, le deuxième tour commencera vendredi. On ne sait pas encore pour l'instant les futurs adversaires de l'équipe de France. Mais aussi le cyclisme avec la Vuelta dont Mehdi nous a parlé. La suite de l'US Open avec ce soir Monfils Ndourar en 8e. Une vraie possibilité pour Monfils d'aller loin dans ce tournoi. Ouais. Et peut-être même en demi derrière. Le Grand Prix d'Italie la semaine prochaine en F1 et le début de la saison de NFL et ça on a tous hâte.
Au moins nous sommes complets. Merci Lucas. Nous on va passer au premier débat de la soirée. On va parler basket.
Sportez-vous bien. Le débat.
Vendredi a débuté la 18e Coupe du Monde de basket en Chine. Vainqueur de l'Allemagne hier, les Bleus sont bien lancés dans ce mondial, comme les États-Unis, les ultra favoris de la compétition. Messieurs, justement, on va en parler des États-Unis, double champion du monde en titre. Est-ce qu'ils sont tout simplement imbattables? On le rappelle, vous répondez par oui ou par non et on débat ensuite, Mehdi Guillonneau.
Non.
Maxime Brossard.
Non.
Et Lucas Cerdic.
Mais non.
Et au moins, nous sommes d'accord.
Mais oui.
Est-ce que nous sommes d'accord sur qui peut battre les États-Unis, oui. La Serbie.
En précisant qu'ils ne sont pas imbattables, mais ils sont quand même ultra grands, favoris, tout ce qu'on veut. Ouais. Même,
disons qu'on en a déjà parlé ici, même dans en ce dehors, studio, sur les 20 dernières années, c'est peut-être la fois où ils sont le plus prenables lors de mondiaux.
Mehdi Guillonneau, la Serbie.
Serbie, Grèce, France un peu derrière, l'Espagne bien
l'Espagne,
sûr.
Ouais.
Et alors il y en a un que moi que je rajoute et qui les a battus en match amical, je dis pourquoi
l'Australie
pas l'Australie.
L'Australie,
oui, pourquoi pas.
En match amical, ça compte vraiment, sans manquer de respect à l'Australie.
Oui, ça compte.
Il faut battre les États-Unis. Ça je ne dis pas que c'est facile,
c'était
etc.
Pas,
mais...
C'était pas arrivé depuis 78 matchs. Match amicaux compris, les États-Unis.
Il y a Ben Simon.
Ça, et puis, je peux vous dire qu'un Team USA coaché par Popovic n'a pas envie de perdre. Jamais. S'il y a bien un homme sur Terre qui n'aime pas perdre, même en amical, surtout quand il sait que son équipe est à ce point, on va dire. Non, mais en plein doute, en tout cas. Disons que tout le monde dit qu'il pourrait perdre. Je peux vous dire qu'il y en a un qui n'a pas dû aimer ça, c'est Popovic. Donc, non, c'est quand même un gros signe, cette défaite des USA face à l'Australie, même si c'était un amical.
La Serbie, comme l'a dit Mehdi Guillonneau, la Serbie, la Grèce, l'Espagne. La Serbie en numéro 1, on est d'accord là-dessus?
Oui, avec l'Espagne juste derrière.
C'est pas moi qui vais vous contredire, enfin, la Serbie, bien sûr.
Avec, autour de Nikola Jokic.
C'est vrai, Lucas Serdic.
Blague à part, historiquement, l'ex-Yougoslavie, en tout cas, était de loin le pays qui a le mieux
gagné.
Plus
de championnats du monde que les États-Unis, je crois.
Autant 5 championnats du monde chacun pour les États-Unis.
Et à une époque où les États-Unis étaient une équipe composé uniquement de stars, c'est la seule équipe qui arrivait à peu près à rivaliser. Et historiquement, de toute façon, ce sont des pays de basket, de très beaux basket même. Et voilà, on en a déjà parlé aussi ici, je crois, mais il y a beaucoup de sports où si ces pays étaient encore unifiés, ils feraient vraiment beaucoup de mal. Hein.
On va pas parler de nourriture, mais on va parler quand même des Grecs. Il fallait que je la fasse, j'étais obligé. J'étais obligé de la faire.
Par contre, vous êtes obligé de prononcer le nom du joueur, du coup.
Ah oui,
ah
oui.
On veut faire des vagues sur le grec.
Giannis. On parle de la Grèce.
Antetokounmpo.
Un mot qui compte quadruple.
Au Scrabble, vous faites un carton. C'est comme Lewandowski.
Tordre la langue. Je peux pas le prononcer. La Grèce. C'est juste derrière.
Oui, mais juste parce qu'il y a Giannis Antetokounmpo qui est le meilleur joueur du monde sur l'année dernière puisqu'il était MVP de la saison régulière NBA, donc le meilleur joueur du monde. Et même au-delà de ça, l'équipe de Grèce, dans tous les cas, les joueurs autour de lui, Kostas Sloukas, Ioannis Borousis, tout ça, c'est des mecs qui jouent en Euroleague toute l'année, qui ont gagné l'Euroleague. Donc c'est aussi solide autour de lui. Il n'y a pas seulement Giannis Antetokounmpo, même si c'est le facteur X et c'est lui qui peut
le pivot de Denis. Ou pas d'ailleurs, je sais même pas s'il est encore
Koufos.
Postigis ou Porzingis.
Porzingis, c'est laiton.
Il est laiton.
Il est laiton. Pourquoi il s'appelle comme ça s'il est laiton?
Il est pas là, il est pas du tout champion du monde. Nuka Doncic qui est slovène.
Oui, là, ça, pour le coup, lui, je l'avais repéré.
C'est bon.
Mais on va parler quand même de nos tricolores. On va parler de l'équipe de France. Que peut espérer l'équipe de France là sur ce mondial?
Un podium. Ouais, je pense.
C'est dans les cordes de l'équipe de France là-dessus, on est d'accord.
Après,
premier podium il y a 5 ans.
Réservé, hein.
Par rapport au premier match qu'on a pu voir
contre l'Allemagne,
avec la victoire.
C'était laborieux quand même. Hein.
Je trouve qu'ils ont eu une très très bonne assise défensive, mais
il y a eu de la maîtrise,
offensivement, j'ai l'impression qu'il manque une gâchette, quoi. Il manque quelqu'un qui peut faire la différence de loin.
Vous me parlez d'un podium, moi je les vois pas. Je les vois pas devant les USA, je les vois pas devant la Serbie, pas devant l'Espagne, pas devant la Grèce.
La seule chose, c'est que le podium, il est envisageable parce que tu fais quand même partie des 4-5 équipes juste derrière les États-Unis, même si t'es peut-être un peu en dessous de l'Espagne et de la Serbie. C'est le calendrier. Le calendrier, souci, c'est que si c'est respecté en quart de finale, ça risque d'être les États-Unis.
États-Unis.
Il me semble que c'est les États-Unis ou la Serbie rapidement.
Je crois que c'était que c'est États-Unis si on finissait deuxième.
On risque de finir deuxième.
Après, c'est Canada normalement si on finit premier, je crois.
Voilà, parce qu'au deuxième tour, il falloir se farcir aussi les Lituaniens et les Grecs.
En battant l'Allemagne, on va finir premier, non?
De la première phase, tu reverses la seconde phase.
On est d'accord, il y a le deuxième tour.
Tu joues les deux premiers de la poule juste derrière, et ça sera sûrement la Turquie.
J'attends rien de cette équipe de France, mais tant mieux, hein, parce que finalement, c'est là qu'elle peut aussi surprendre son monde, parce que voilà, c'est quand même la première, enfin, pas la première compétition, mais voilà, pour moi, c'est la première compétition qui signe vraiment l'après.
La fin d'une génération.
Il y a possibilité, il y a encore des gars comme Batum aussi qui ont de la bouteille, mais on peut plus compter sur Batum d'après moi.
Je trouve que quand même elle est pas mal l'équipe, quoi. Enfin, il y a des noms. Enfin, on voit Ntilikina, on voit Fournier qui a été très bon d'ailleurs.
Juste Gobert, c'est le meilleur défenseur.
Meilleur défenseur du monde. Même après la révélation aussi à Matemba.
De Colo, Fournier, Batum, c'est des joueurs qu'on connaît.
Il a mis 21 points contre.
Je trouve qu'il y a pas assez de relève. Enfin, il y a un creux, quoi. Pour moi, il y a un creux. On est dedans, mais on verra. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils nous surprennent, et en plus, ils en sont tout à fait capables. Ils ont un sélectionneur excellent. Qui est capable de faire des choses.
La dernière fois qu'ils nous ont surpris, c'était il y a 5 ans, sans Tony Parker, sans tous les cadres, ils ont fini 3e. Et en battant l'Espagne chez elle dans sa salle à Madrid en quart de finale.
Et c'est tout simplement le premier podium et le seul podium de l'équipe de France pour l'instant
au championnat du monde.
C'était donc en 2014. Bien évidemment, les États-Unis avaient battu la Serbie en finale. Une affiche qu'on risque de revoir cette année. Un mot justement sur cette Coupe du Monde, ces championnats du monde, cette Coupe du Monde. On va parler du niveau de ce championnat. On passe de 32 équipes à 24. En faisant une parallèle toute proportion gardée avec le football, où on passe de l'Euro à 16 à l'Euro à 24, on allait se dire
Oui, mais il y aura des matchs un peu plus moyens, il y aura des matchs plus pourris, il y aura des équipes plus faibles, etc. C'est le même cas, là, avec la Coupe du Monde à 32.
Élargie, ouais.
Bah, les premiers tours, c'est un peu cacahuète pour les grosses nations, quoi. C'est vraiment des tours de chauffe. Nous, on va jouer la Jordanie, la République Dominicaine, qui en plus a 2-3 joueurs corrects, mais qui ne sont pas là. Mmh. Donc, c'est vraiment un tour de chauffe, et c'est vraiment des tours pour rien. C'est presque plus relevé de commencer un Euro de basket qu'un championnat du monde de basket. Mais bon, ils ouvrent, il faut voir ce que ça donne. C'est un peu comme au foot. S'il faut, quand ces équipes-là seront habituées à jouer ces compétitions, le niveau augmentera. Et dans 10-15 ans, la Jordanie nous en mettra peut-être plus qu'à l'heure actuelle. Hein, je dis ça, j'en sais rien.
Ouais, c'est ce qu'on pense du hand, c'est ce qu'on a pu penser aussi du rugby. Bon, moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y ait une grosse culture basket suffisamment et des infrastructures suffisamment grandes pour rattraper le retard qui est énorme dès qu'on a des joueurs qui jouent en NBA. Ça passera que par la NBA, de toute façon. Peu importe ce qu'on dit, les pays, à un moment donné, ils grandissent si les joueurs ils ont le niveau pour aller en NBA.
Ce qu'on disait tout à l'heure en marge de l'émission, quand vous êtes champion NBA, on dit vous êtes champion du monde de la NBA en fait. Et c'est vrai que finalement,
c'est vrai qu'il y a rien au-dessus.
Tous les projecteurs sont
à part
sur
les
NBA,
Jeux Olympiques, sûrement.
Oui, les Jeux Olympiques sont au-dessus, mais on va dire quand même, c'est avec les Jeux Olympiques, c'est les deux références.
Même si l'Euroleague a beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années, les meilleures équipes d'Euroleague sont sûrement meilleures que les plus faibles d'NBA maintenant.
Bien sûr, mais les vrais fans de basket ont plus été excités cet été par la draft que par ce mondial qui commence. Voilà, c'est tout. C'est bête à dire, mais on préfère le basket qui joue en coulisses que le mondial de basket, il me semble.
Un mot sur le niveau des joueurs français, par contre, par rapport à ce qu'on disait. On voit l'équipe de France plus ou moins dans le dernier carré, ça va être limite, ça on l'a compris. Vous avez parlé de creux de génération, je vais revenir là-dessus, Lucas Serdic. Mais dites-vous, partagez ça, c'est un creux de génération ou quand on regarde quand même l'effectif de l'équipe de France là sur ce mondial. Elle n'est pas dégueulasse quand même.
Ah, l'équipe, elle est même très bonne. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a un creux parce qu'on ne voit plus marquer Tony Parker, Boris Diaw. Il faut rappeler qu'il y a certains absents aussi. Adrien Moerman qui était habitué à être là. L'équipe, sur le papier, elle n'est pas mauvaise. Il y a Evan Fournier qui reprend le relais. On a Rudy Gobert qui, encore une fois, est là
patron.
Pour la première fois en patron. Pour gérer cette équipe-là, Evan Fournier qui sur le premier match est là pour sauver l'équipe. Justement,
je vois ce que tu
en fait, pour moi, on a de très bons joueurs de complément, mais on n'a pas un gars.
Il manque
Nando De Colo, c'est sûrement l'un des 2-3 meilleurs joueurs d'Europe aussi, dans l'effectif.
Je trouve excellent, mais il manque un truc.
Il manque un MVP, il manque un peu le joueur étincelle, je vois ce que tu veux dire.
Il manque un mec.
C'est Evan Fournier qui prendra ce rôle, sûrement en attaque comme on l'a vu.
Ça lui fait du bien à chaque fois, ces joueurs avec l'équipe de France, Evan Fournier. Le problème, c'est qu'il lui faut une saison NBA derrière où il concrétise, où il est régulier tout le temps pour prendre une autre dimension et pour amener une équipe et devenir le vrai patron. Ça suffit pas une compète avec l'équipe de France pour que quand tu vois l'équipe tu te dises ah ouais là il manque personne. Là on a le gars et il est entouré par des bêtes, en tout cas des mecs des super gens.
Après au basket c'est souvent pareil pour tout le monde.
Oui,
toutes les équipes.
Oui, il y a souvent un pilier.
Il faut quand même un joueur.
C'est ça. Après,
les Américains appellent ça un key player, un joueur clé.
C'est ça.
C'est ça, un go-to guy. Ils appellent ça aussi un NBA, ce qu'a fait Fournier hier notamment. À signaler quand même que les jeunes Français, il y en aura pas mal à NBA ces prochaines années. On a beaucoup de gros prospects. Donc bon, c'est sûr que l'avenir sera peut-être encore meilleur que ce qu'on voit actuellement.
Moi, je vous parle juste de cette génération entre Parker et justement celle-là. Je trouve qu'il manque un tout petit peu.
On devrait retrouver l'équipe de France au deuxième tour. Enfin, c'est à moins d'un tremblement de terre. L'équipe de France sera au deuxième tour. Ils joueront demain, ils joueront jeudi. C'est chez nos confrères de Canal+, de Canal+ Sport. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes pour le deuxième débat. On va parler football, là tout de suite.
Suis-moi dans la ville blafarde.
Portez-vous bien. Le débat.
Le deuxième débat de la soirée. Après le basket, on garde un ballon rond, mais un peu plus léger quand même. Hier marqué la fin de la quatrième journée de Ligue 1 Conforama. Une victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AS Saint-Etienne pour les 120 ans du club marseillais. L'heure pour nous de faire un micro-bilan au moment de la trêve internationale. Nous allons parler des gros et des petits. Nous allons faire un zoom sur plusieurs niveaux de tableau. On va commencer tout en haut pour terminer bien évidemment tout en bas où se retrouve le Dijon FCO. On va commencer avec le duel pour le champion. J'ai envie de parler de duel, messieurs. Est-ce que ça tient la route de dire que le Paris Saint-Germain et Lyon, c'est un duel qui va durer ou pas? C'est trop gros?
C'est assez rigolo parce que on fait un premier bilan à la 4 journées, mais on en a fait un à 2 journées aussi. Il y a 2 journées, on pensait tous que Lyon était capable de. Là, c'est pas qu'on ne pense plus, mais c'est rigolo comme la situation peut s'inverser. Marseille, saison galère, Lyon, saison de fou, Paris, attention. Et là, 4 journées, bon, finalement.
Paris est déjà premier, Paris, Lyon est cinquième.
Premier, c'est à égalité, mais quand même, quoi. Donc, effectivement, on peut penser que Paris et Lyon vont jouer le titre quand on voit, le bel effectif lyonnais et ce qui se met en place. Après voilà, ce club nous rappelle quand même à chaque journée qu'il est assez imprévisible, je trouve.
Lyon, c'est l'équipe qui bat sur les 4-5 dernières années le plus régulièrement le Paris Saint-Germain. Alors surtout au Parc OL, c'est vrai qu'au Parc des Princes, ça se termine souvent par des petites valises, des grosses valises même.
Ça dépend.
On sait ce qui manque à l'Olympique Lyonnais, c'est justement de battre les petits, c'est de battre Amiens, de battre Dijon, même de battre des moyens hein, comme Bordeaux, le match nul là. On est d'accord pour dire que si cette année Lyon tient la cadence, Lyon va inquiéter très longtemps le Paris Saint-Germain parce qu'il y a des joueurs de qualité.
Bah, c'est pour ça que le changement d'entraîneur a été fait, un peu le changement de direction avec un peu comme au PSG l'arrivée d'un directeur sportif assez fort comme Juninho.
Après, Elche qui est sorti quand même, attention, ouais. Trois des plus grosses transferts de l'histoire.
Oui, après il y a quand même toujours plus de ventes que d'achats à Lyon. Après,
c'est super bien géré quand même.
Voilà, après, c'est la gestion du club est bonne depuis des années, mais ouais, au-delà de ça, je pense que
ils ont réinvesti là.
Ouais, mais Lyon, on peut pas se rendre compte de suite. Encore une fois, c'est tout neuf, donc on peut pas dire c'est génial comme on a dit après 2 journées. Moi qui suis, j'attendais la suite avec impatience. Et là, on peut pas dire non plus c'est catastrophique. Ils vont faire comme les autres années. Il faudra attendre au moins, à mon avis, une dizaine ou une douzaine de matchs pour se rendre compte et savoir si cette année, ils pourront au moins aller titiller le PSG, pas finir à 20 points, mais aller peut-être finir à 7-8 points. Quoi.
Parce que d'expérience aussi, hein, le mois d'août en Ligue 1,
gérer la Ligue des Champions,
toujours très particulier. Quoi. On a toujours les enseignements du mois d'août sont rarement vérifiés par la suite de la saison.
Et surtout les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Et surtout les effectifs qui jouent la Ligue des Champions. C'est le cas du Paris Saint-Germain, de Lyon et cette année de Lille qui, on le rappelle, tombe dans la poule de l'Ajax et de Chelsea. Ils sont prêts pas pour le début de saison du championnat, ils sont prêts vraiment pour mi-septembre et le début de la Ligue des Champions.
Oui, enfin non, moi je voulais juste revenir sur le championnat que je trouvais, enfin le peu que j'ai suivi. Je trouve que c'est assez ouvert cette année, ça a l'air assez intéressant quand on regarde voilà d'un œil, on va dire un peu moins expert. Ce que j'ai noté en plus c'est que tout le monde a perdu. Oui. Toutes les équipes ont perdu. Je crois que c'était pas arrivé depuis très longtemps.
Ça faisait 56 ans, je crois.
Ouais, voilà. Donc, enfin, je trouve que pour moi qui me suis un peu, on va dire, détaché de la Ligue 1 à cause du fait que voilà, c'était souvent les mêmes équipes qui étaient sur le devant de l'affiche. Mais là, je prête un peu plus attention aux résultats parce que je trouve que le championnat est nettement plus ouvert et nettement plus intéressant.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a Paris, il y a Lyon, mais il y a Lille dont on attend la confirmation. Il y a Marseille qui tente des choses, qui est toujours intéressant à suivre. Il y a Saint-Etienne qui a fait un recrutement intéressant. Strasbourg qui est toujours un petit peu... On a envie de voir ce qu'ils vont faire. Reims, c'est ce qu'ils vont confirmer. Montpellier aussi. Bordeaux
et Nantes. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Justement, vous avez parlé de Lille, parlé de Saint-Etienne. On va parler justement là de ces deux clubs. Ces deux clubs qui étaient... Alors, je mets des guillemets, bien sûr, par rapport à ce que je vais dire. Un peu surprise l'année dernière. C'est vrai que Lille 2e, Saint-Etienne 4e, bien évidemment, méritant leur place de ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'était des équipes surprises. Là, on va attendre la confirmation. Surtout que ce soit Lille et surtout Saint-Etienne, le mercato a été intense. Le mercato sur le papier
Les deux, hein.
Oui, le mercato a été plutôt bon, voire excellent sur le papier. On va attendre la confirmation de Lyon et de Saint-Etienne, de Lille, et de Saint-Etienne, deux équipes un petit peu en difficulté quand même sur ce début de saison.
Ouais, surtout Saint-Etienne.
Surtout Saint-Etienne.
Saint-Etienne a 4 points,
Lille en a 6, ça fait deux mauvais
matchs.
À Lille, pour moi, il n'y a absolument rien d'autonome parce que c'est un club, de toute façon, ils étaient prêts à vendre des joueurs, ils ont vendu à l'appel, il faut reconstruire, il y avait 6 recrues sur le terrain.
Ça fait un recrutement très intéressant.
Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, on verra, ça tournera, il finira peut-être que 4 ou 5e cette année, mais c'est tout à fait normal. L'année dernière, c'était un peu une année exceptionnelle. Par contre, oui, la déception du début de saison, c'est Saint-Etienne, parce qu'il y a eu un gros recrutement, notamment d'anciens internationaux comme Johan Cabaye.
Bien arrivé, surtout Boudbouz.
Riyad Boudbouz, même Denis Bouanga qui était très bon à Nîmes, l'arrière-gauche du Chili, Miguel Trauco. Enfin, l'effectif est assez costaud et en fait l'inconnu.
Et joue l'Europa League. Hein,
l'inconnu pour moi, elle vient du coach.
Ils ont perdu personne.
Elle vient surtout du coach. Ouais. En fait, c'était le numéro 2 l'année dernière. C'est les joueurs qui ont voulu le garder et quand il va falloir faire des choix, peut-être que lui va se retrouver un peu piégé parce que c'est les joueurs qui l'ont choisi et c'est peut-être ça qui va les pénaliser. Moi, notamment sur les premiers matchs, je trouve Saint-Etienne physiquement à la rue complet.
Ah, t'es pas le seul. Hein.
À la rue complet, il y a des joueurs qui sont arrivés en retard, mais c'est pas possible.
Kasri, bout de bout, c'est vrai que Boudbouz n'a jamais été quelqu'un de physique et de rapide, mais c'est vrai que Kasri et Boudbouz, pour citer que eux, c'est vrai qu'ils sont un peu à la ramasse physiquement.
Hein. Oui, non, mais tous. J'écoutais Pierre Ménès hier soir qui disait justement, ils n'arrivent pas fatigués, ils arrivent en méforme. C'est-à-dire qu'ils sont, t'as pas l'impression qu'ils ont fait comme ça
physique,
et décliné au fur et à mesure du match, ils étaient déjà là. Ils ont été incapables
de faire les
efforts qu'on appelle à haute intensité et à les répéter. Il y avait pas ce côté-là face à une équipe de Marseille qui était boostée au Vélodrome et qui avait faim visiblement et qui elle pour le coup a l'air s'être relancée. C'est vrai que c'est compliqué. Saint-Etienne, on va voir ce que ça donne.
Après l'effectif est là.
C'est vraiment dommage. Ouais.
L'effectif est là. Tu dois finir 3e, 4e, 5e par là. Hein.
S'ils font rien, c'est vraiment dommage hein, parce que là, ils ont vraiment très très bien négocié leur mercato. Ils ont perdu personne en fait.
Avec le Paris Saint-Germain, leader du championnat avec 9 points en 4 journées, il y a Angers, mais il y a surtout Rennes et Nice. J'ai envie de venir sur Rennes et Nice qui se sont affrontés.
Ouais, j'ai même pas parlé de tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de clubs intéressants.
Rennes et Nice qui se sont affrontés ce week-end. Nice qui allait gagner à la 92e minute sur la pelouse de Rennes, infligeant la première défaite.
Un magnifique but du bas du ventre de Racine Colli.
Exactement. Ah oh, bah moi je serais.
Tant que ça rentre.
Ouais. Moi si ça tape le ventre.
Je pense que là on bat record de vitesse. Non, le ballon il part à 90 km.
C'est ce que j'allais dire. Ça part vite.
Ça part vite, ouais, bas du ventre.
C'est une vraie surface de contact chez vous.
Juste un mot sur le niveau. Oui, le suspense a peut-être augmenté, mais moi je trouve que le niveau pour l'instant a beaucoup baissé parce que les clubs ont beaucoup changé de choses et ça met du temps à se mettre en place. Et c'est peut-être dû à notre championnat qui n'a pas forcément moins d'argent que les autres. Et donc on renouvelle beaucoup tous les ans et ça a du mal à se mettre en place.
C'est une question philosophique. Est-ce qu'il vaut mieux un championnat moins fort mais plus attractif ou plus fort et moins attractif ou moins intéressant à suivre?
Vous avez 2 heures, Maxime.
On posera la question dans l'année. Rennes-Nice, les équipes surprises, on est d'accord? Surprise à moitié. On est d'accord aussi.
Nice, alors Nice plus que Rennes.
Ça dépend comment on oriente la chose, parce que Rennes, ils ont perdu quelques joueurs quand même, mais effectivement.
Ils ont recruté beaucoup quand même. Hein.
Oui, non, mais bon, ils perdent Ismaël Assar, ils perdent Benjamin André, c'était quand même pas n'importe qui dans l'effectif de Rennes. Ils perdent Mexer, ils perdent
Ben Arfa.
C'est quand même
Ben Sebaini surtout.
Ben Sebaini aussi, ils ont quand même perdu 5 titulaires et pas des moindres. Après, ils ont recruté intelligemment. Nice, ils en ont perdu encore plus. Mais ils ont un excellent coach. J'en profite pour dire que là, cette fin de mercato pour la Ligue 1 sent bon. Tu vois, elle fait plaisir. Là, je sens un frémissement. Je vois plein de joueurs qui arrivent et ça faisait un peu peur au début de mercato, comme souvent d'ailleurs.
Mais ça s'accélère souvent.
Il se passe des choses. Il y a des joueurs qui arrivent qui sont en galère et qui vont venir en Ligue 1 et qui vont se rassurer. Et ça fait plaisir parce que
Surtout à Nice, attendait le rachat du propriétaire.
Surtout à Nice, mais à Monaco aussi. À Paris aussi, et ils ne sont pas les seuls.
On peut parler de Rennes et de Nice, juste une dernière chose. Lille a été en Ligue des Champions, Lille a été l'équipe surprise en Ligue des Champions, Nice l'a été il y a 2-3 ans, Auxerre l'a fait il y a 7-8 ans, le Toulouse Football Club l'a fait aussi. C'est vrai que la Ligue 1 est un petit peu habituée, contrairement
aux autres
championnats. Nancy a fini 4e avez fini 4e. On a des équipes qui jouent la Ligue des Champions qui ne sont pas vraiment programmées. Est-ce que Rennes et Nice font partie de ces équipes qui peuvent titiller une 3e place sur une année où tout leur sourit?
Mais tout le monde peut finir 3e dans cette Ligue 1 en fait. J'ai envie de dire qu'il y a 7-8 équipes qui peuvent prétendre à ces places-là cette année. Normalement, les deux premières, je dis bien normalement, les deux premières sont réservées à Lyon et à Paris. Mais derrière, on prend Rennes, Nice, Marseille, Je peux rajouter Nantes avec Gourcuff, Lille, Bordeaux, Montpellier,
Monaco,
Saint-Etienne, Monaco. Montpellier. Ça peut espérer là, toutes ces places-là. Quoi.
Marseille et Monaco, on les place où? Moi, j'ai préparé, j'ai mis dans les déceptions point d'interrogation. Mais par rapport à leur effectif, par rapport à l'attente qu'on standing, a sur ces clubs.
Ah, mais de toute façon, cette année en Ligue 1, il y aura des gros déçus. Parce que quand on énumère, et on vient de le faire, il y a 10 clubs qui peuvent,
ça va s'entasser,
pas légitimement, mais qui peuvent espérer, sans qu'il y ait trop d'exagération,
au moins la Coupe d'Europe,
au moins dans le top 5. Et parce qu'elles ont fait beaucoup de promesses, parce qu'elles ont fait des recrutements ambitieux, parce qu'elles ont un standing naturel qui font que. Mais il y aura des déçus, et il y en aura beaucoup. Il y a intérêt à se rattraper sur les coupes pour certains.
Coupe de France, Coupe de la Ligue.
Voilà,
Pour faire une analogie avec le rugby, ça me fait penser au top 14 quand il y a des équipes qui ne sont pas qualifiées. À chaque fois, quand on se dit allez, qui va passer, qui ne va pas passer, on est tous là à dire le nom de toutes les équipes.
Oui,
et finalement,
année,
on se rend compte qu'il y a peut-être quoi. Il y a sur le top 14, il n'y a que 3 équipes qui ne peuvent pas postuler aux places qualificatives.
C'est un peu ça, mais c'est plutôt excitant.
Je pense que ça va faire la même chose cette année en Ligue 1.
Et ce qui est bien avec cette 3e place dont on parle, c'est qu'elle attire tout le temps justement quelqu'un. Elle est toujours quelque part à portée de main pour des équipes. Et c'est ce qui rend le championnat un petit peu plein de suspense jusqu'au bout, pour dire il n'y a pas que chez nous, hein, l'Atalanta joue la Ligue des Champions cette année.
Atalanta Bergame.
Et l'année dernière avait fait une énorme saison, bien évidemment, en Serie A, on s'en doute quand on termine sur le podium en Italie. On était en haut du classement, on a descendu un petit peu vers la 5, 6, 7, 8e place. Là, on va descendre vraiment à l'étage
dans
du
les
dessous.
Bas-fonds. Le ventre mou,
les scaphandriers.
Même en dessous, on va parler un peu de relégation, on va parler de zone rouge. Bon, on est d'accord pour dire que Dijon, c'est mal barré, c'est très mal barré, pas seulement en termes de points, on le rappelle, 0 points en 4 journées. C'est surtout le jeu, il n'y a rien.
Ouais, le jeu, les joueurs, le coach, voilà.
Mais déjà, quand on a vu j'avais suivi un peu
la
campagne de Lens en barrage, et quand je les avais vus affronter Dijon, honnêtement, j'avais vu cette équipe de Lens vraiment tenir, rivaliser avec cette équipe de Ligue 1, alors que je m'étais dit qu'il y avait vraiment un gouffre entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'était à mon humble avis, mais du coup quand j'ai vu la
c'est
façon
de moins en moins vrai.
Dont c'était on va dire assez équilibré, et la façon dont Lens aurait très bien pu accéder à la Ligue 1, je me suis dit Dijon, ils vont rester, mais ça va être très très dur pour eux, et bon, finalement ça se confirme.
Dijon, ils surfent encore, ils sont encore là grâce à leur magnifique début de saison de l'année dernière, qui est aux antipodes de celle de cette année, puisqu'ils avaient fait je crois 4 victoires ou 3 victoires, un match nul, enfin voilà.
C'est vrai que les points ils les avaient pris en début de saison.
Ah oui, ils avaient tout pris en début de saison,
la deuxième partie de saison
avec un Tavares qui était encore en forme, avec des choses comme ça, des joueurs ont disparu des radars à Dijon, mais c'est assez incroyable. On a l'impression qu'il n'y a plus personne.
Et surtout l'entraîneur qui est parti.
Il y a l'entraîneur qui est
celui
parti.
Celui qui a tout construit n'est plus là.
Exactement. Et celui qui est là,
et qui est à Brest,
il va avoir des difficultés. Pour revenir un tout petit peu sur le niveau de la Ligue 2, moi je ne suis pas d'accord avec
Ligue
Maxime. Je trouve... Non, de la Ligue 2. Je ne suis pas d'accord avec Maxime pour dire qu'il y a un gouffre. Il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui auraient du mal avec le premier peloton de Ligue 2. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs qui s'y trompent pas.
À partir de la 12e place de Ligue 1 jusqu'à la 12e place de Ligue 2, c'est le même championnat.
Et il y a des clubs de Ligue 1 qui s'y trompent pas et qui font allègrement leur marché dedans. Et je pense notamment à Angers qui figure très très bien. Moi, que je classe dans les équipes que j'aime bien voir jouer cette année, surtout à domicile.
Tous les ans.
Et ils vont chercher quasiment tout le temps en Ligue 2.
Un mot sur le TFC, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose avec eux, c'est... bon début de saison, bon mois d'août, et on sait très bien que, on se doute que.
Pour moi, il est complètement différent de l'année dernière, parce que l'année dernière, il avait suscité beaucoup d'attentes, et ce qu'on avait vu sur le terrain avait suscité beaucoup d'attentes. Or là, le début de saison est bon comptablement. Un petit peu comme l'année dernière. Mais ce qu'on voit sur le terrain est complètement différent de l'année dernière. L'effectif qui a été construit est construit différemment aussi. Il semble plus solide, surtout. Peut-être un peu court sur certains postes.
En défense centrale, c'est
terrible.
Ouais, quand il y aura Choji, Izimat Merin, ça ira très bien. Diakité peut dépanner en troisième.
Izimat Merin, potentiellement oui, mais j'attends de voir quand même. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en Ligue 1, lui. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait.
Moi, je suis beaucoup moins inquiet l'année dernière. Je pense qu'on peut viser une belle 12e place.
Ils ont vraiment capitalisé au maximum sur leurs 4 matchs. 7 points, c'est quasiment ce qu'ils pouvaient espérer.
7 points sur 9, en sachant qu'il y a le Paris Saint-Germain dedans. Donc c'est 7 points sur 9 contre des concurrents directs.
Et sachant que sur 8 mi-temps, ils en ont fait une belle. Donc 7 points en une.
Deux. Une contre Dijon, une contre Amiens.
Ouais.
Le deuxième mi-temps à chaque fois.
C'était sympa avec celle de Dijon, quoi.
Et le Toulouse Football Club qui se déplacera à Saint-Etienne lors de la reprise. 2 déplacements de suite, Saint-Etienne et Nîmes, avant de recevoir Angers en semaine.
Oui, en jouant Brest, Dijon et Amiens aussi. En même temps, il fallait mettre des points là, parce que c'est quand même.
Objectif rempli. Moi, j'ai envie
dire ça.
De toute façon, c'est ce qu'avait dit Alain Casanova clairement en conférence de presse. Il fallait prendre 7 points sur 9, c'était l'objectif. L'objectif atteint, en sachant qu'il y avait encore une fois le Paris Saint-Germain dedans.
Oui.
Et que quand on est Toulouse, on n'espère pas grand-chose face au Paris Saint-Germain.
Tout petit dernier mot sur le TFC. Ils ont eu la bonne idée de faire leur recrutement très tôt. Du coup, ça leur permet aussi de travailler sur le terrain, ce qui est pas mal.
Et ils ont pu ajuster à certains moments. Merci messieurs, c'est déjà terminé pour le premier numéro de Sportez-vous bien pour la deuxième saison. Nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain, même heure, même endroit, avec les mêmes personnes dans Sportez-vous bien. Bonne semaine et à lundi.
Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante.